ces mots courage et confiance. Alors lisons d'abord 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, 2 Corinthiens 4, 1, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen. Alors, deuxième mention, chapitre 4, toujours verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Chapitre 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 8. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Alors, quatre références pour parler deux fois du courage. Nous ne perdons pas courage. Et deux fois, il dit, nous sommes pleins de confiance. Alors on va maintenant regarder, et pourquoi il dit ça, et relire les contextes dans lesquels sont notées ces expressions. Alors on va lire 2 Corinthiens 4, 1 à 15. 1 à 15. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. C'est le diable qui est rusé, mais certainement pas les serviteurs de Dieu. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Hein? Mais en... Alors il paraît qu'on peut même traduire, nous ne bradons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Et vous vous rappelez le message sur l'incrédulité? L'incrédulité, ce n'est pas une incapacité, c'est une mauvaise volonté. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs, pas leaders, serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous, hein, la croix et la résurrection. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. On ne va pas en détailler tout cela, il faudrait faire une étude biblique, mais succinctement. C'est pourquoi... Ayant ce ministère, au verset 1er, nous ne perdons pas courage. Alors c'est pourquoi? Pourquoi? Bien, c'est grâce au ministère de la Nouvelle Alliance qui nous transforme. C'est le verset 18 du chapitre 3 où il est question, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alors pourquoi Paul dit, nous ne perdons pas courage, parce que nous sommes dans une alliance nouvelle qui est puissante et efficace, qui peut nous transformer parce que nous contemplons Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous n'avons pas raison de perdre courage. Peut-être vous avez des difficultés, vous vous dites, j'arrive pas à changer ça dans mon caractère, j'ai un problème avec tel péché. Mais je vous assure, ne vous découragez pas, nous sommes dans une alliance dans laquelle il nous est promis que si nous contemplons le Seigneur, nous serons transformés en la même image de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire, ça ne veut pas dire tout de suite, ça veut dire de gloire en gloire, ça veut dire incessamment, toujours, toujours, chaque jour, un peu plus. Nous sommes glorifiés en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Glorifié veut dire ici métamorphosé, transformé à l'image du Seigneur. Alors, après, on va à partir du verset 2, il y a toutes les conséquences de ce courage que l'on trouve dans l'efficacité de la nouvelle alliance, la publication de la vérité. Paul dit, on ne brade pas l'évangile, mais on publie la vérité. Alléluia. Et notamment, il dit, c'est pas nous que nous prêchons, c'est Jésus-Christ. Ah, c'est terrible quand des fois on met sur des prospectus tel prédicateur et on essaye de faire venir les gens à cause d'un autre nom que le nom de Jésus. D'aller dans des rassemblements parce que l'on dit, il y a là un grand évangéliste de renommée internationale. Mais non, on ne va pas courir après d'autres noms que le nom de Jésus. Ce dont nous avons besoin, c'est de la prédication du nom de Jésus. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Amen. Ah, c'est pas nous, parce que nous, on n'est pas intéressants. C'est le Seigneur que nous voulons entendre. Alléluia. Et venir aux réunions, quel que soit le messager, pourvu que le message, ce soit Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous savez comment Charles Spurgeon s'est converti? On l'a appelé le prince des prédicateurs. C'était la plus grande église évangélique à Londres, on l'appelait le tabernacle. C'était le prince des prédicateurs. Pourtant, il écrivait toutes ses prédications, il les lisait. Mais il savait les lire de telle façon que cela vraiment harangué les foules. Eh bien, il était en quête, il cherchait à connaître la vérité. Il était dans une église où il y avait de très bons prédicateurs, de très bons sermons. Mais un jour, désespéré, puis il pleuvait, il rentre dans une petite église, je ne sais pas exactement, c'était à Londres ou dans la banlieue de Londres, et puis il rentre. Puis là, il y avait un vieux paysan qui a ouvert la Bible et qui a parlé, et qui a simplement dit que c'était Jésus-Christ le Sauveur, que c'était parce qu'il était mort sur la croix, que nous pouvions être pardonnés de nos péchés et être sauvés. Et c'est là que Spurgeon s'est converti. Et il disait qu'il n'avait jamais entendu le salut en Jésus-Christ, en dehors de ce moment-là. Et bon, c'était un pauvre frère qui faisait ce qu'il pouvait avec ses mots, mais qui a parlé de Jésus. Là où dans d'autres assemblées, on pouvait parler de beaucoup de choses, et peut-être mieux, mais on ne parlait pas beaucoup de Jésus. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Alléluia. Tout simplement. C'est le jaillissement de la lumière, parce que c'est écrit ici. Bien, car Dieu qui a dit « la lumière brillera », c'est une victoire annoncée. « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller dans nos cœurs Jésus-Christ. Pourquoi nous prêchons Jésus? Parce que prêcher Jésus, c'est rendre possible le jaillissement de la lumière dans les ténèbres. Amen. Nous prêchons Jésus parce qu'un cœur enténébré, voilé, il est pas question des incrédules, il y a un voile, ils ne peuvent pas croire, ils sont tenus par le diable. C'est le nom de Jésus qui fait fuir tous les démons. Alléluia. C'est le nom de Jésus qui fait jaillir la lumière dans les ténèbres. C'est dans son nom-là qu'il y a la puissance. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Oui, alors bon, les prédicateurs qui vont beaucoup parler d'eux-mêmes, non, non, non. Il y a autre chose à faire. Être impressionné par des hommes et des... Non, non, non. Nous voulons, au contraire, avoir un seul Seigneur. Et puis ensuite, en conséquence, c'est la foi dans les difficultés. Vous avez vu quand il dit nous ne perdons pas courage. Alors on pourrait dire, peut-être que Paul était dans un moment facile de la vie, et puis il s'exprime comme cela, parce qu'il a comme ça subitement un enthousiasme. Ben non, quand il dit, on est pressé de toute manière. On est dans la détresse, mais pas dans les... On est persécuté, mais pas abattu, mais pas perdu. Alléluia. Il a eu une vie difficile, Paul. Quand même. Il a failli perdre la vie à plusieurs reprises. Mais il n'a jamais été découragé. Oh, il y a peut-être eu des moments où il a dû être fortifié, comme au moment du naufrage. Le Seigneur l'a fortifié grâce à un ange, c'est vrai. Mais notre Seigneur lui-même a eu besoin d'être fortifié à Gethsémané. Alléluia. Alors, bien sûr, mais d'une façon générale, ce qui est très impressionnant chez l'apôtre Paul, c'est qu'il ne s'est jamais relâché dans son ministère parce qu'il ne s'est jamais découragé. Durablement. Ah, ça, c'est... Hein, il se donne en exemple aux chrétiens dans les épîtres, Paul, hein. Je pense qu'il peut le faire, lui. Peut-être pas nous, mais lui pouvait vraiment le faire. Nous sommes parfois un peu trop vite découragés, bien-aimés, et nous oublions dans quelle alliance nous sommes et quel est le nom que nous annonçons. Amen. Alors, on continue. La deuxième portion, c'est verset 16, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi, deuxième fois, nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Amen. Alors, deuxième raison et conséquence de ce fait qu'il est dans ce courage-là, eh bien, verset 16, il est question de vieillissement et de renouvellement. Le vieillissement, ce n'est pas une maladie. Quand vous lisez le livre de l'Ecclésiaste, à la fin du livre de l'Ecclésiaste, il y a une belle description de la vieillesse. Enfin, une belle description... C'est une description poétique, mais assez cruelle quand même. Mais tous les chrétiens vieillissent. Je vous ai rien appris, je pense. Alors, bien sûr, moi au début, quand je venais de me convertir, j'imaginais que je serais comme Caleb. Je vais peut-être faire sourire un peu, mais il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années maintenant quand même, à mon travail, j'ai fait une visite médicale. Et pour la première fois, j'ai commencé à avoir un peu de mal à voir les tout petits caractères. Et là, je dis, oh, ça, c'est pas bon, ça. Et le médecin de me dire, écoutez, monsieur, ça, c'est normal, à partir de 40 ans, alors il m'expliquait au niveau de l'iris, etc. À partir de 40 ans, c'est tout le monde comme ça. Bon, j'ai rien dit, mais moi-même, je disais, Caleb, c'est cuit alors pour moi. on vieillit tous, et Paul le dit, notre homme extérieur, il se détruit. Voilà. Mais notre homme intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Non. Le corps a son importance, mais ne misons pas tout sur ça. Parce qu'en fait, c'est l'être intérieur qui ne vieillit jamais. Et ça, c'est bizarre. Avec l'expérience chrétienne, on le constate. On se sent de mieux en mieux. Dans la foi, dans le Seigneur, on se sent de mieux en mieux. Par contre, des fois, dans le corps, on se sent pas de mieux en mieux. Et il y a cette dualité, mais ça nous donne plein de courage, bien-aimés. Parce que bien vieillir, c'est pas évident. Hein. Bien vieillir, accepter qu'on voit moins, qu'on entend moins. Hein. Des fois, on met du temps, on dit, mais si, j'entends bien, mais si, j'entends bien. Mais on doit hurler, mais si, j'entends bien. Hein. Bien vieillir, c'est pas facile. Hein. Mais je pense qu'on vieillira bien si on est renouvelé intérieurement. Et on comprendra qu'au fond... on a été musclé, on a été beau. Mais ce qui compte, c'est intérieurement d'être riche, d'être renouvelé. Dieu soit béni. Alors là, nous ne perdons pas courage. Même en vieillissant, nous ne perdons pas courage. Amen. Et j'ai vu des chrétiens qui étaient plus beaux vieux que jeunes. Alléluia. Il y avait quelque chose sur eux. Il y avait de la gloire. Amen. Ah, que le Seigneur nous donne de nous glorifier en vieillissant. Pas glorifier humainement, vous comprenez, de la gloire dont il était parlé juste avant. Le verset 17 nous parle seulement de cette préparation à la gloire. Pourquoi on est plein de courage? Ben parce qu'on sait que toutes les galères qu'on vit, c'est comme du poids de gloire. Alléluia! Le frère Lambert, quand il est venu, j'ai beaucoup aimé, il a dit qu'il y avait dans la gloire, ça voulait dire un poids que ça pèse. C'est intéressant ça. Et ici, effectivement, il est question du poids de gloire. Nos légères afflictions. Vous direz, ah ben non, moi c'est pas léger, frère. Hein. Mais Paul dit, nos légères afflictions, et quand on a lu ce qui précédait, lui, il a eu plus d'afflictions que nous. Mais même lui, il le vit comme ça. Il dit, ça c'est léger. Ça c'est rien du tout, ça. Parce que c'est rien dans la balance. Dans la balance de la gloire. À chaque fois que j'ai une épreuve, une difficulté, et que je la vis dans la foi, j'ai peut-être 10 grammes. J'ai peut-être 500 grammes, j'ai peut-être 3 kilos en plus de gloire. Alléluia. Ça me prépare un poids de gloire à venir. Merci Seigneur. Et nous devrions vivre toutes nos difficultés comme cela. Contrairement aux incroyants, malheureusement, ils souffrent gratuitement. Ils souffrent pour rien. Mais nous, la Bible dit que Dieu recueille dans son outre toutes nos larmes. Amen. Il n'y a rien qui se perd. Tout se transforme en poids éternel de gloire. Dieu soit béni. Alors oui, nous ne perdons pas courage. Chapitre 5, verset 1er, ben, il est dit, nous l'avons lu tout à l'heure, nous savons. Alors, nous lisons vite la parole malheureusement. Mais c'est fort. Nous savons. Nous savons qu'après la mort, Dieu va nous donner un corps ressuscité, glorifié, qu'on va revêtir notre domicile céleste. Mais c'est extraordinaire, moi je ne le savais pas, j'avais peur de la mort. Et peut-être quelqu'un ce soir a peur de la mort. Mais il n'y a que dans cette nouvelle alliance, il n'y a que dans le nom de Jésus qu'on peut être sûr et qu'on peut savoir. Nous, nous savons que nous ressusciterons. Nous savons que Dieu va nous donner un nouveau corps dans la gloire à venir. Alléluia. Alors franchement, oui, nous ne perdons pas courage. Amen. Allez, dernière portion d'écriture, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Hein, pas forcément dans le cœur, mais on est en distance de Dieu, on est très loin de son ciel, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc là ici, c'est la conclusion de ce qu'on vient de dire, connaissant donc la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur repose donc sur la connaissance du tribunal de Christ. Nous cherchons à convaincre les hommes. Amen. Alors on termine avec ces deux mentions pleines de confiance. Eh bien au verset 8, Paul dit « C'est mieux de mourir que de vivre ». C'est fort quand même. On le relit ensemble. « Aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur ». Amen. Hier, j'étais dans une réunion de l'Oasis et une sœur m'a posé la question. Une sœur m'a dit, quand on s'endort dans le Seigneur, quand est-ce qu'on est réveillé? Parce qu'il y a des théologiens qui disent qu'on n'est réveillé qu'au moment de la résurrection du corps. Et qu'entre un moment où l'un chrétien meurt et au moment où Jésus revient et où il ressuscitera le corps des croyants, ben les croyants restent endormis. Je lui ai dit non. Ah non. Parce que l'Écriture dit ici, par exemple, ben, on préfère être quitté ce corps pour être près du Seigneur. Si c'est être près du Seigneur pour dormir à côté de lui, ça n'a pas de sens. C'est être près du Seigneur réveillé. Et le brigand, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et tous les textes de l'Apocalypse qui nous montrent les martyrs, mais dans le ciel, en train de louer Dieu et le glorifier. Ah, alors je comprends que Paul dit, mais nous aimons mieux quitter ce corps, être auprès du Seigneur. Alléluia. Hein, c'est déjà le ciel pour celui qui s'en va avec le Seigneur. Et puis le verset 9, c'est l'impact pour la vie actuelle. Il y a la vie à venir, c'est vrai. Mais la vie à venir doit avoir un impact sur la vie actuelle. Il dit, c'est pour cela, au verset 9, c'est pour cela, c'est parce qu'on a cette espérance, c'est parce qu'on sait qu'on va être ressuscité, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Qu'on continue à vivre ou qu'on meure, quoi, hein, que nous demeurions dans ce corps ou qu'on le quitte. Car on doit tous aller devant le tribunal de Christ. Notre espérance n'est pas légère. Notre espérance favorise la sanctification. Nous n'avons pas une espérance simplement pour nous dire « Oh, bah, c'est pas grave, tout va bien aller. » On va voir le Seigneur. On va passer devant son tribunal. Alors c'est pour ça que maintenant, on veut lui être agréable. Alléluia. Et c'est connaissant la crainte de Dieu, de Christ. La crainte de Dieu... Il en est beaucoup parlé dans l'Ancien Testament, et parfois on peut penser que ce qui est dit dans l'Ancien Testament n'est plus valable dans le Nouveau Testament. C'est entièrement faux. La crainte de Dieu continue dans le Nouveau Testament. Et la terreur d'Isaac, vous avez déjà lu ça dans le livre de la Genèse, Dieu est appelé la terreur d'Isaac. Il y a besoin que vous ne l'avez jamais lu, ça c'est d'un coup. Alors c'est la question pour la réunion suivante. Vous me trouverez la référence. La terreur d'Isaac, nous quelque part on peut dire, vous comprendrez, la terreur de Jésus-Christ. Quand on lit Apocalypse chapitre 1er et qu'on voit la description de Jésus-Christ glorifié, waouh! Alors oui, nous voudrions craindre le Seigneur parce que nous allons le rencontrer. Mais vous comprenez bien, c'est une espérance. Il ne faut pas avoir peur de rencontrer Jésus. Il ne faut pas se dire, oh, je suis un chrétien, oui, mais dans ma vie encore... C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Mais nous voudrions quand même lui présenter plein de bonnes choses. Avoir les bras chargés pour les lui offrir quand il reviendra. Amen. Et qu'il nous enlèvera avec lui. Voilà. Alors, bien sûr, la conclusion, c'est pour ça que j'ai terminé là. Nous cherchons à convaincre les hommes. Pourquoi on veut parler du Seigneur autour de nous? Parce qu'on sait tout ça. On sait tout ça. C'est pas parce qu'on veut que notre église, elle marche. L'église, c'est pas une entreprise. On veut pas que l'église marche, ça c'est humain. Non, mais on veut que les gens qui sont en train de mourir soient sauvés. On voudrait les rattraper au bord du précipice pour qu'ils ne tombent pas. Nous, on est sauvés, merci Seigneur. On est plein de courage, on ne se décourage pas et on est plein de confiance. Mais eux, alors nous cherchons à les convaincre. Amen. Que Dieu les sauve en grand nombre. Amen. On peut terminer par la prière. Quelqu'un, quelques-uns. Merci. Gloire à Dieu.